RFI, grand reportage, Patrick Adam.
Bonjour. Leur supplice fait régulièrement la une de l'actualité et revient comme une triste récurrence. Les migrants seraient-ils ces nouveaux damnés de la Terre ? Acculés aux frontières, pourchassés, stigmatisés, bien souvent expulsés, reconduits, mais vers où ? Leur pays parfois, aussi juste repoussé n'importe où, nulle part, comme en Tunisie l'an passé, quand le président a entonné la chasse aux migrants sur l'air du grand remplacement. Ils ont été déposés en plein désert. Et maintenant, où sont-ils? Comment vivent-ils? Reportage en deuxième partie d'émission d'Amira Swilem. Comment vont les jeunes? Apparemment pas si bien. Depuis les années Covid, la santé mentale des jeunes et parfois des très jeunes se dégrade, avec des cas de dépression de plus en plus tôt. Nous sommes dans le nord de la France. Les passages aux urgences pour gestes ou idées suicidaires, les consultations pour troubles anxieux ont augmenté chez les plus de 10 ans. Un chiffre, en 2021, les tentatives de suicide chez les jeunes étaient 4 fois supérieures à la moyenne nationale.
On m'a diagnostiquée dépressive à mes 7 ans et en fait, il s'est avéré que finalement je suis bipolaire. Alors j'ai eu une très très mauvaise prise en charge parce qu'on ne me croyait pas. J'ai même eu un médecin qui m'a dit que l'anorexie chez les enfants, ça n'existait pas. On me disait que je faisais des caprices et qu'il fallait que mes parents soient plus sévères avec moi. Je voyais des psys à l'école, mais c'était à peu près tout.
Dans un secteur psychiatrique en crise, quelle prise en charge de la santé mentale des jeunes ? Grand reportage de Lise Verbeek. Elle est avec nous dans 20 minutes.
Je peux vous parler 2 minutes ? À quel âge, toi ?
Depuis le Covid, Nordine Lagraghi a vu la santé mentale des jeunes se dégrader. Angoisse, anxiété, repli sur soi, l'éducateur de rue le constate tous les jours sur son secteur, dans la ville de Arnes, une cité minière du Pas-de-Calais entourée de terrils. Il travaille pour l'association de prévention spécialisée Avenir des Cités.
Voilà, on a en fait un trajet où on sait qu'il y a des lieux importants de regroupement, où on sait qu'on va croiser des jeunes et des moins jeunes. En sachant que vu qu'il pleut, on va pas croiser grand monde.
Comme tous les jours, il arpente le quartier quelques heures avec Célia Mungari, une psychologue de rue recrutée par l'association il y a 1 an.
L'adolescence est une période déjà où il y a plein de choses qui se passent. La construction identitaire, c'est une période cruciale de la vie, quoi. Donc je pense qu'à un moment donné, si les problèmes étaient traités à un moment T, ils prendraient moins d'ampleur aussi dans l'âge adulte.
Bonjour. C'est quoi vos prénoms? Parce que moi, je vous connais pas.
Anna Julia et tout.
Noélie.
Moi, c'est Célia. Je suis la psychologue. Moi, je propose une écoute. Je suis là pour vous écouter, pour vous aider à aller mieux, si besoin. Vous connaissiez pas du tout ?
Elle doit souvent leur expliquer à quoi sert un psychologue, un métier encore beaucoup associé à la folie. Dans la rue, elle repère les jeunes qui auraient besoin d'elle.
Une fois, un jeune faisait du bénévolat dans le cadre d'une réparation pénale avec les éducateurs. On a discuté tout d'abord de ses études. Après, je voyais qu'il me parlait un petit peu plus de sa vie perso. Et ça a découlé sur une discussion de 45 minutes où vraiment, il a parlé des difficultés intrafamiliales qu'il avait. Il a dit qu'il pense que ça lui ferait du bien de voir un psy, juste pour prendre du recul sur lui-même et pouvoir fonctionner différemment, mais qu'il ne se sentait pas encore prêt. Donc dans ces cas-là, je laisse mon numéro, je laisse venir à moi si besoin. J'ai aussi pu l'orienter pour lui dire ce qui existait en tant que psy.
Les jeunes qu'elle rencontre souffrent de troubles du comportement alimentaire, sont victimes de violences sexuelles, s'automutilent ou n'arrivent pas à faire un deuil. Dans des temps informels de la rue, elle crée un lien de confiance pour les amener ensuite dans son bureau pour des entretiens.
Je te présente ma fille.
Enchantée. C'est quoi ton prénom ?
Assia.
Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
Quelqu'un de très réservé en fait, elle n'a pas d'amis.
De toute façon, elle a votre numéro de téléphone, je lui ai dit
Hein,
si vraiment elle a des questions, si elle veut parler,
elle peut parler avec
moi. Ce dispositif de psy de rue a fait ses preuves et il commence à se dupliquer dans d'autres villes, mais il reste précaire et dépendant des financements de l'Agence régionale de santé qui peut à tout moment les couper.
Bonjour.
Alors, je pense qu'on peut se poser dans une salle de cela, ouais.
Et pourtant, les besoins sont là.
On a très clairement remarqué qu'il y a eu une augmentation du nombre de demandes et que les situations sont plus graves.
Marc est pédopsychiatre dans un centre médico-psychologique dans la métropole lilloise.
Je suis notamment dans un secteur plutôt précaire, qui fait qu'il y a une gravité sur le plan des pathologies, mais également sur le plan des situations sociales. Et alors c'est clairement intriqué, hein, puisque On peut pas prendre en compte la santé d'un enfant, d'un adolescent, sans prendre en compte sa situation environnementale, familiale, sociale, scolaire. Voilà, et l'augmentation, par exemple, des faits de violence, des faits de maltraitance, de l'insécurité, de la précarité sociale, parce que ça entraînait aussi des difficultés sur le plan financier pour beaucoup de familles.
Dans les centres médico-psychologiques, les CMP, il y a des infirmiers, des psychologues, des psychiatres, des assistantes sociales. Les soins sont entièrement pris en charge. Ces CMP sont des maillons essentiels de soins de santé mentale entre la médecine générale et les hôpitaux psychiatriques. Mais depuis plusieurs années, il manque de moyens humains et financiers. Les listes d'attente s'allongent. Dans le CMP de Marc, une soixantaine de jeunes patients attendent une prise en charge.
Ce n'est pas des soins qui ont un résultat rapidement. Ça ne se résout pas en 7-8 séances. 7-8 séances, c'est pour qu'il y ait une alliance suffisamment bonne pour que la situation du jeune soit suffisamment bien connue et claire pour le praticien. Ça fait que les situations sont beaucoup plus longues à prendre en charge. Ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus longues à finir. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à éponger toute la demande. Sachant qu'on fait déjà un gros tri. On a vraiment une organisation des soins qui fait qu'on ne garde que les situations jugées psychiatriques, c'est-à-dire avec vraiment un trouble modéré à grave, avec une nécessité d'une prise en charge pluridisciplinaire, un avis médical, voire même une indication médicamenteuse.
Bonjour.
Bonjour. Merci. Je suis un petit peu en avance.
Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. On va vous renifler.
Souffrir de troubles psychiques, c'est avoir une maladie invisible aux yeux des autres. Peu de jeunes témoignent, mais certains acceptent pour faire bouger les lignes.
Est-ce que je vous sers quelque chose à boire ?
Je veux bien un petit café si vous avez. Ouais, super, merci.
Alors, je m'appelle Emma, j'ai 22 ans et j'habite à Amiens. J'ai mes parents qui se sont séparés en 2005 parce que mon papa était alcoolique et violent. Ensuite, j'ai pendant toute cette période-là, jusqu'à de mes 5-6 ans jusqu'à mes 13 ans, j'ai subi des attouchements sexuels par mon grand-père. Alors j'ai toujours été suivie par des pédopsychiatres. J'étais pas une enfant facile à l'école, avec des difficultés forcément, ça occasionne des troubles. Et donc j'ai été suivie pendant plusieurs années, notamment pour les difficultés avec mon papa. Mais après on a compris que toutes ces difficultés-là étaient liées à mes traumatismes sur toute la période d'enfance en fait.
À sa majorité, elle bascule dans un centre médico-psychologique pour adultes, mais aucun psychologue n'est disponible. Elle voit donc régulièrement une infirmière. Après un an, elle décide d'arrêter.
J'avais l'impression de ne plus avancer avec elle et peut-être qu'avec un psychologue, ça aurait été peut-être plus loin. Peut-être qu'on aurait mis d'autres thérapies en place, peut-être la thérapie cognitive et comportementale ou d'autres choses qui auraient poussé un peu plus loin que juste discuter... Et devoir toujours rabâcher la même chose, redire la même chose, alors que il y a différentes façons de le travailler par la parole.
La jeune femme a entamé une thérapie avec une psychothérapeute dans le libéral. À 60 euros la séance, c'est sa mère qui a dû l'aider.
Bonjour.
Oui, bonjour, c'est Lise de RFI.
Oui, mais j'arrive tout de suite.
D'accord, à tout de suite, merci.
Bonjour. Étage 2.
Caroline, 21 ans, n'a pas les moyens de payer de telles séances. Elle vit avec son compagnon à Amiens, dans un petit appartement dont elle ne sort pas beaucoup.
Alors très très petite, j'ai commencé à avoir des problèmes de nourriture, avec l'anorexie. On m'a diagnostiquée dépressive à mes 7 ans, et en fait il s'est avéré que finalement je suis bipolaire. Alors j'ai eu une très très mauvaise prise en charge parce qu'on ne me croyait pas. J'ai même eu un médecin qui m'a dit que l'anorexie chez les enfants ça n'existait pas. On me disait que je faisais des caprices et qu'il fallait que mes parents soient plus sévères avec moi. Donc je voyais des psys à l'école, mais c'était à peu près tout.
Les psys qui vous aidaient à l'école ?
Des psys qui m'aidaient pas forcément parce qu'ils racontaient tout à mes parents. Donc j'arrivais pas à me confier, j'arrivais pas à leur dire ce qui n'allait pas. Ça m'enfonçait encore plus parce qu'ils me jugeaient. En tout cas, j'avais l'impression qu'ils me jugeaient. J'avais pas d'aide.
À sa majorité, elle décide de couper les ponts avec ses parents et elle s'installe à plusieurs centaines de kilomètres d'eux. Elle est guérie de son anorexie et sa bipolarité est quasiment stable. Mais pour trouver un suivi avec une psychiatre à Amiens, elle a dû attendre un an et demi. Pour elle, c'est important de garder la même professionnelle.
C'est douloureux de réexpliquer à chaque fois parce qu'on se confie, on se met à nu. Et puis, c'est difficile. Donc avoir la même personne pendant un long moment, c'est beaucoup plus facile, on arrive à mieux se confier et puis elle nous connaît, elle apprend à déceler les non-dits. Et ça, c'est pas mal.
Il a fallu plusieurs années pour que la maladie, la bipolarité, soit diagnostiquée chez Caroline. Il faut du temps pour poser le bon diagnostic. Philippe est psychologue pour enfants dans un centre médico-psychologique près de Lille. Là où avant il suivait les patients quasiment toute leur enfance, aujourd'hui les prises en charge se sont raccourcies avec une pression pour poser rapidement un diagnostic.
Sans forcément se préoccuper du fait que ça puisse évoluer. Alors ça a des avantages, ça peut soulager les parents, les enfants parfois. En fait, il y a besoin d'un diagnostic pour avoir des aides, que ce soit à l'école ou pour avoir une école spécialisée. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'exigences à faire des bilans et à apporter une réponse qui serait extérieure sans considérer en tout cas le développement psychique des enfants. Et surtout, l'expérience que j'en ai eue, c'est que pour beaucoup d'enfants, donc quand les parents se mobilisent beaucoup, vont frapper à toutes les portes, et bien le diagnostic n'est pas le même suivant les différents professionnels. Donc les parents se retrouvent avec un neuropédiatre qui a donné un diagnostic de trouble de l'attention avec hyperactivité, donc qui a donné un traitement. Ensuite, ils font un bilan avec un neuropsychologue qui dit que c'est pas ça, avec un orthophoniste qui dit que c'est encore autre chose. Donc en fait, finalement, le souci du diagnostic, c'est que les gens sont pas forcément d'accord et que c'est très délicat de poser un diagnostic pour un enfant.
Les tests, les protocoles se multiplient, selon lui, et il craint une disparition progressive de la pédopsychiatrie.
Il y a énormément de troubles aujourd'hui, donc c'est comme ça qu'ils sont qualifiés. Donc il y a les troubles du spectre autistique, les troubles de l'hyperactivité. Tout ça, c'est englobé dans un gros sac, c'est donc des TND, donc des troubles du neurodéveloppement. C'est tout un pan de la discipline qui est aussi du coup attribué à la neuropédiatrie, qui n'ont du coup pas du tout la même approche que être celle de la pédopsychiatrie, à savoir de tenir compte de l'enfant, de sa famille, de ce qu'il ressent, de sa singularité à lui, en fait, de sa façon d'être. Tout ça, c'est complètement dénié au profit d'une globalisation du trouble, avec des réponses qui sont des protocoles et des traitements médicamenteux.
Dans son bureau, Philippe voit de plus en plus de jeunes patients qui se scarifient, qui ont des idées suicidaires. Dans son dernier rapport, Santé publique France indique que chez les 18-24 ans, les tentatives de suicide ont augmenté de 60% depuis un an.
Je ne sais pas dans quel état est l'appart. J'ai laissé mes enfants.
Elle a le droit de sortir.
Je m'appelle Malika, j'ai bientôt 45 ans. Je suis maman de deux enfants adolescents, dont une fille qui a 17 ans, qui s'appelle Lou, et avec laquelle on a rencontré quelques difficultés au cours de ces dernières années. Pendant au moins deux ans, on s'est réveillé chaque jour en se demandant si on la retrouverait en vie ou pas dans son lit. Elle avait fait une tentative de suicide dans son collège où elle avait pris des médicaments dans les toilettes de son établissement. Donc on est sorti de cette période de crise. Elle continue pour autant à se scarifier. Elle a le corps complètement lacéré, du torse à la plante des pieds.
Depuis 5 ans, Lou est passée dans différentes structures, urgence psy, hôpital, centre médico-psychologique. Sa mère s'est sentie seule dans ce parcours difficile.
On a rencontré beaucoup de professionnels différents, mais de façon pléthorique. Et qu'à chaque fois, il fallait qu'on raconte à nouveau notre histoire. Et qu'à chaque fois qu'on l'a racontée, il y avait des choses qui étaient plus entendues que d'autres. Et jamais notre histoire globale n'était entendu totalement. Donc ça a toujours été très frustrant. J'ai aussi toujours eu le sentiment qu'on n'était pas, en tant que parents, associés dans le parcours de soins. Donc il y a trois structures qui s'occupent d'elle. Il a toujours été très compliqué pour eux de communiquer, même si, allez, sur 5 ans, ils ont fait 2 synthèses. Je n'ai jamais eu de retour des synthèses. Ils ne se sont jamais mis d'accord à l'issue des synthèses sur qui faisait quoi. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas qui est le médecin référent.
Quand Lou est hospitalisée à cause d'une crise, Malika constate le manque de moyens, des personnels débordés. En 10 ans, plus de 2200 lits ont été fermés dans les hôpitaux psychiatriques dans toute la France.
Allô ?
Oui, bonjour, c'est Lise Verbeek de la radio RFI.
J'arrive, je viens vous chercher.
D'accord, à tout de suite, merci.
Dans celui d'Amiens, 110 lits ont disparu depuis 2015. Il y a 3 ans, une dizaine de médecins ont même démissionné. Florent Buda, infirmier dans une unité mobile psy et secrétaire adjoint de la CGT, dénonce une logique budgétaire au détriment du patient.
Selon les pathologies, je crois que pour un schizophrène, ils estiment qu'en gros, en 3 semaines maximum, il doit être stabilisé et sorti. À peine il est rentré, on doit penser déjà à sa sortie. Sauf que la psychiatrie, c'est pas une science exacte. Donc forcément, au niveau du relationnel, il y a des fois, le travail se fait sur plus longtemps. Parce que dire, au final, il faut qu'il soit pris en charge par des équipes mobiles, donc c'est-à-dire l'ambulatoire. Si le patient n'est pas stabilisé, le travail de l'équipe mobile ne peut pas se faire. Le patient n'ouvre pas la porte, ça a des graves répercussions aussi, et puis le patient se retrouve sans arrêt en rupture thérapeutique, donc il n'y a pas de suivi en fait. C'est la logique maintenant, c'est une logique budgétaire qui est venue casser complètement le soin, et ce qui en plus caractérisait la psychiatrie, c'est la dimension humaine qu'on a perdue. Là, on n'a plus du tout la dimension humaine dans le soin, mais la dimension de rentabilité, d'économie. Toutes ces mesures-là, c'est des mesures budgétaires qui, au final, sont délétères pour les patients.
Bonjour.
Oui, Nadia.
Bonjour, oui, c'est ça.
Enchantée.
Lisa.
Oui, c'est
oui,
ça.
Bonjour, Lisa.
Les patients subissent le manque de moyens à l'hôpital psychiatrique et par ricochet, leurs parents. Nous retrouvons dans un café d'Amiens deux mères, Nadia et Charo. Elles ont réussi à trouver du temps dans leur emploi du temps très chargé entre leur travail et leur fils dont elles s'occupent, qui sont tous les deux schizophrènes. La dernière fois que Nadia est allée aux urgences psy, c'était car son fils était en crise et il a vu un médecin.
C'est professionnel bien sûr, hein. Il a dit que voilà, j'ai senti que votre fils délirait beaucoup. Et puis il a dit que voilà, il faut qu'on le garde. Bon après, moi je suis rentrée. Donc bon, j'ai dit, il est entre de bonnes mains, ça va aller, peut-être il va... Ils m'ont dit qu'on va démarrer tout de suite un traitement.
Mais 3 jours plus tard, elle reçoit un appel de son fils.
Avec son téléphone, il me dit, je suis au centre-ville. Ben, j'écoute.
Et l'hôpital, vous n'avez pas, vous non, avez
j'ai,
pas prévu.
J'ai rien reçu. J'ai reçu aucun appel. Après, je dis, mince, mais c'est quoi cette histoire-là? Certainement, il commence à délirer. Est-ce qu'il dit. Bon, j'ai appelé tout de suite l'hôpital. J'avais du mal à les avoir. Ils m'ont dit, oui. Il est sorti parce que ça va. Lui aussi, il ne voulait pas rester. Donc, on l'a laissé sortir.
Charo, elle, déplore le fait que les proches se retrouvent seuls à devoir gérer leurs enfants malades.
On nous donne cette responsabilité à nous, les parents, de suivre des malades, des fois, qui sont quand même schizophrènes, c'est pas rien. Ils n'ont pas cette possibilité de... se donne pas ce temps de nous expliquer comment faire chez nous. On se trouve en quelque part avec un malade sans savoir quoi faire.
Nadia et Charo ont pu trouver du soutien auprès de l'UNAFAM, l'Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades Psychiques. L'association propose des groupes de parole et c'est là d'ailleurs qu'elles se sont rencontrées. Sans l'UNAFAM, Charo dit qu'elle aurait sombré face à tous les moments difficiles qu'elle traverse. Elle remue d'ailleurs en ce moment ciel et terre pour trouver un psychiatre à son fils de 21 ans, car celui qui le suit part en formation 1 an et il n'est pas remplacé. Nous retournons à l'hôpital psychiatrique d'Amiens, véritable petite ville cachée par de grands murs en briques, avec un parc et des bâtiments datant du 19e siècle. Le docteur Cyril Guillaumont est le président de la commission médicale de l'EPSM, établissement public de santé mentale du département de la Somme. Le manque de médecins psychiatres, il ne peut que le déplorer.
Ça fait depuis une dizaine d'années, au moins voire plus, qu'on alerte nos tutelles pour dire que la psychiatrie est en difficulté. C'est des choses qu'on subit un peu comme nos patients, c'est-à-dire qu'on a les moyens qu'on a et on essaye de faire avec ces moyens-là au mieux qu'on peut.
Depuis quelques années, le PSM désectorise les soins. Avant, les patients devaient aller chez les professionnels de leur secteur géographique. Désectoriser permet donc, selon le médecin, de favoriser l'égalité d'accès aux soins.
À tel endroit, vous avez une infirmière qui vous évalue et en fonction du tableau de la gravité, elle va vous adresser sur un centre où il y aura plus de moyens, où il y aura des prises en charge possibles. Alors ça amènera certainement les patients et leurs familles à se déplacer un peu plus.
Qui pourront le faire, justement, faire 30 km aller-retour.
C'est un peu un problème qui là aussi nous échappe, mais c'est l'Agence régionale de santé qui chapeaute un peu tout ça, qui pourrait peut-être prendre à corps certains sujets et pouvoir dire, on le règle de telle manière, et puis, mais qui est parfois dans une position un peu frileuse. Pour résumer, quand la politique s'intéresse à la santé, c'est jamais, source de solutions.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. du coup. J'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire.
Santé mentale des jeunes, les difficultés de la prise en charge. Bonjour Lise Verbeek.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, installée dans le nord de la France, mais vous collaborez très régulièrement avec RFI et notamment avec les grands reportages. Alors, on a vu passer beaucoup d'études sur cette question de la santé mentale. On en a beaucoup parlé, notamment en sortie de période du Covid. Mais malgré tout cela, on a le sentiment d'un tabou. Comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser à ce sujet ?
Justement parce que c'est un tabou, cette santé mentale, et encore plus chez les jeunes. Le pédopsychiatre que l'on entend dans le reportage me disait que dans notre société, c'est difficile de concevoir qu'un enfant aille mal. Un enfant ne peut pas être en dépression, un enfant ne peut pas vouloir mettre fin à ses jours, un enfant ne peut pas non plus, aux yeux des adultes, souffrir d'hallucinations. Alors la difficulté que j'ai eue pour ce reportage, c'est de faire témoigner des jeunes, au micro, les principaux concernés. Alors pour les enfants, c'est très compliqué car les parents ne veulent pas les perturber avec une interview. Et c'est aussi difficile pour ces enfants de mettre des mots sur leur mal-être. Pour les adolescents, ils ont déjà du mal à parler à leur psy qu'ils voient depuis plusieurs semaines. Alors face à un journaliste, c'est encore plus dur. Donc j'ai discuté, mais uniquement par écrit, via les réseaux sociaux, avec des plus âgés, des étudiants, qui me parlent de leur mal-être qui s'est accentué donc après le Covid notamment. Il y en a beaucoup qui évoquent le stress des études, de l'après, du chômage, du contexte géopolitique. Certains même souffrent de plus en plus d'éco-anxiété, d'angoisse face au changement climatique. Et souvent, ces jeunes-là ne savent pas à qui s'adresser pour aller mieux, parce que le psy est encore vu pour les cas extrêmes ou pour les fous, comme on peut l'entendre dans le reportage. Alors pour les deux jeunes femmes qui ont témoigné au micro dans mon reportage, si elles ont accepté de me parler, c'est parce qu'elles avaient déjà fait un long cheminement avec un long parcours de soins psy derrière elles. Elles avaient donc plus de recul pour pouvoir en parler, donc sans tabou.
Oui, on entend toute la difficulté. Alors, on le sait, le secteur psychiatrique est en crise depuis plusieurs années, Lise, avec un manque de moyens humains et financiers. Et à cela s'ajoute la crise dans le secteur médico-social. Et cela complique les choses.
Ah oui, comme par exemple les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, les ITEP. Ils s'occupent des jeunes ayant des troubles psychiques. Eh bien, ces structures manquent de place. Elles ont des listes d'attente qui peuvent être de plusieurs mois. Philippe, le psychologue qui parle dans mon reportage, et qui travaille dans un centre médico-psychologique, me disait qu'il leur arrive régulièrement d'arrêter de suivre des enfants pour qu'ils deviennent prioritaires et obtiennent une place plus rapidement dans ces instituts éducatifs et pédagogiques. Donc ça veut dire que ces enfants ont une rupture dans les soins et peuvent se retrouver plusieurs semaines sans voir de professionnel. Il y a aussi le secteur de la protection de l'enfance qui manque de moyens humains et financiers. Les travailleurs sociaux alertent d'ailleurs régulièrement sur leur situation avec des jeunes qui ont des troubles psychiques qui ne sont pas soignés.
Oui, on sait que si les troubles psychiatriques ne sont pas pris à temps, ils peuvent s'aggraver à l'âge adulte. Est-ce qu'on a une idée, Lise, des solutions qui pourraient être mises en place ?
Tous mes interlocuteurs me l'ont dit, il faudrait une prise de conscience des politiques. Il y a urgence, car selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur quatre est touchée par des troubles psychiques au cours de sa vie. Il faudrait donc plus de moyens pour la psychiatrie, moyens financiers mais aussi humains. Il y a notamment une vraie pénurie de pédopsychiatres en France. La moitié des postes sont vacants.
Malgré tout, il y a eu des annonces récemment.
Oui, le Premier ministre a annoncé un renforcement du dispositif appelé « Mon soutien psy ». Alors ce dispositif prévoit 8 séances remboursées chez le psy en libéral. Gabriel Attal va faire monter ses séances à 12, mais c'est encore trop court, selon le syndicat national des psychologues, car il faut que l'alliance thérapeutique se mette en place et cela prend du temps. Alors plusieurs personnes que j'ai rencontrées pour le reportage m'ont dit qu'elles s'étaient renseignées pour bénéficier de ces séances remboursées, mais qu'elles n'avaient trouvé aucun psychologue qui le propose. Selon le syndicat, seulement 6% des psys dans toute la France adhèrent à ce dispositif Mon soutien psy. Alors pour les professionnels que j'ai rencontré, au lieu d'inciter à aller dans le libéral, il faudrait plutôt renforcer les CMP, les centres médico-psychologiques, car leur efficacité n'est plus à démontrer et surtout c'est un service public pour tous ceux qui n'ont pas les moyens d'entamer un suivi en libéral.
Ouais, on entend que c'est pas gagné. Merci beaucoup Lise Verbeek. Le supplément au grand reportage, deuxième partie, vous êtes sur RFI.
Laissez-nous passer, laissez-nous passer, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, on n'a rien fait ici, on n'a pas venu pour faire du mal. Ouais, on n'a pas venu pour faire du mal ici.
C'était l'an dernier, le président tunisien s'en prenait aux migrants établis ou de passage en Tunisie. Des propos qui avaient été suivis de semaines de violences anti-noires qui ont culminé durant l'été 2023 avec des migrants déportés par centaines vers des zones désertiques ou vers les frontières avec l'Algérie et la Libye, sans eau, sans nourriture et en plein été. Aujourd'hui, les migrants sont moins nombreux dans les grandes villes de Tunisie. Le supplice des migrants subsaharés en Tunisie, c'est un grand reportage d'Amira Souilem.
Le port d'El-Louze a retrouvé son calme. Situé à une quarantaine de kilomètres de Sfax, il était l'une des plaques tournantes des départs vers l'Europe cet été. Sur un bateau à quai, Mohamed Ben Ali rafistole ses filets, aidé d'un ami. Il est pêcheur et il avoue son soulagement.
Moi, en ce qui me concerne, j'ai sauvé de la mort plus de 200 personnes. Tout est consigné au commissariat, tu peux aller vérifier. Oui, ce bateau a sorti plus de 200 personnes des flots. On sort en mer pour aller chercher de quoi faire vivre nos enfants et on se retrouve à devoir ramener au port des migrants qui ont fait naufrage. On rentre à leur bredouille, chez nous, sans rien. Et je ne vous parle même pas des cadavres que l'on voit. Mais cette année, ça va mieux. On était arrivé à un point où, quand j'apportais du poisson à la maison, personne ne voulait en manger à cause des cadavres que la mer rejette. C'est une catastrophe, mais cette année, ça va.
Des renforts matériels ont afflué dans les ports de la région. Tout au long de notre tournage, la présence de la garde nationale a aussi été fréquente. Tout en martelant qu'elles ne sont pas les gardes-côtes de l'Europe, les autorités tunisiennes ont renforcé drastiquement leur mission de surveillance ces derniers mois. Et elles tiennent à ce que ça se sache. Sur des images diffusées par le ministère tunisien de l'Intérieur, on peut voir des opérations de déguerpissement, comme ici, sur cette place de Sfax en septembre 2023. Le gouvernement tunisien veut montrer qu'il agit. Ses partenaires européens le somment de le faire depuis des mois.
Très bien.
En 2023, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a multiplié les allers-retours à Tunis. C'est elle que l'on entend plaisanter ici avec le président tunisien, Kais Saied.
Vous êtes une femme qui dit tout ce que les autres pensent tout bas.
Ayant désormais ses entrées à Carthage, elle atterrit en juillet dernier à Tunis, accompagnée d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.
Good evening. Team Europe is back in Tunis. I'm glad to be here with Prime Minister Giorgia Meloni and Prime Minister Mark Rutte.
Contre une promesse d'enveloppe d'1 milliard d'euros, composée d'aides et de prêts, la Tunisie s'est engagée à mieux tenir ses frontières. Depuis, les relations avec l'Union européenne se sont un peu tendues, mais les autorités tunisiennes maintiennent la pression sur les migrants, car elles sont elles-mêmes sous pression, celle d'une partie de la rue tunisienne. Échaudée par la crise économique, une partie de la population ne cache plus son hostilité à l'encontre des migrants subsahariens. Certains Tunisiens demandent même leur départ du pays. L'an passé, des migrants ont même subi des descentes à domicile, parfois mortelles. Ce jour-là, au port d'El-Louze, un homme qui n'est ni pêcheur ni garde-côte, Wahid Dehesh, est un activiste tunisien qui suit la situation de près. À quelques mètres de lui, s'entassent les carcasses en fer des embarcations de fortune qui ont fait naufrage cet été. Malgré le durcissement des contrôles, il sait que certains restent prêts à tout.
Je viens de recevoir un SMS de la part d'un ami activiste dans le domaine des migrations. Il y a une embarcation qui vient de faire naufrage au large de la ville d'El Sheba. Les dernières informations disent que 42 Soudanais étaient à bord de ce bateau. Ils avaient des cartes prouvant leur statut de réfugiés. À ce stade, 13 corps ont été repêchés. C'est étonnant que ce départ ait pu avoir lieu parce que les côtes sont désormais verrouillées par les gardes-côtes. Comment ce départ a pu avoir lieu, ça reste un point d'interrogation.
Wahid se met immédiatement en route pour El Cheb afin d'avoir plus d'informations. Sans succès, les policiers renvoient vers leur supérieur, absent à ce moment-là. Ils rebroussent donc chemin. À défaut d'en savoir plus sur le dernier naufrage, ils décident d'aller prendre des nouvelles de migrants qu'il connaît et qui ont trouvé refuge dans les oliveraies de la région.
Comment allez-vous ?
Nous sommes à El Amra, c'est à environ 25 km au nord de la ville de Sfax. C'est ici que se sont établis certains migrants depuis juillet dernier. C'est un de leurs spots, c'est la dernière halte avant un départ vers l'Italie. Rien qu'ici, il doit y avoir 20 000 migrants, on parle de chiffres énormes. C'est cela qui a poussé de nombreux habitants à manifester et à demander à ce que l'État trouve une solution à la situation des migrants ici. L'État essaie de trouver une solution, mais ce que l'on peut constater en venant ici, c'est que cela tarde. Il n'y a pas de solution, rien n'a changé. Il y a juste moins de migrants sur les artères principales et dans le centre-ville. À la place, ils sont là, dans les oliveraies, et ça ne bénéficie à personne, ni à eux en tant que migrants, ni à la région. Regardez ce terrain. Son propriétaire pâtit de la situation. La récolte des olives a été rendue compliquée par leur présence. Quand il pleut, ils sont exposés aux pluies et au froid. La situation des migrants est vraiment compliquée aujourd'hui.
Éloignés des grandes villes et des côtes, les exilés se rabattent vers l'arrière du pays désormais. À la précarité matérielle vient s'ajouter l'intranquillité mentale. Un jeune homme fait signe de le suivre.
Venez, je vais vous montrer. Ici, c'est un peu de l'appartement de Black.
Il est guinéen, il a 22 ans et se fait appeler Smaïl.
Nous ne nous sentons pas en sécurité ici parce que la population, ils peuvent venir à n'importe comment, à n'importe moment. Donc on est là, on a peur, on vit avec la phobie. Mais à chaque jour, même aujourd'hui, j'ai été à la boutique, ils m'ont poursuivi, vous voyez ma chaussure. Ça a été coupé aujourd'hui. Ils m'ont poursuivi à la boutique. Donc nous sommes tombés, on a pris les cours des gens, les chiens aussi nous ont cherchés. Ça, c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, le matin, quand je suis parti chercher le déjeuner, c'était la garde nationale. Non, ils sont venus, on était dans la boutique, on était à l'intérieur de la boutique. Et ils sont venus dans leur voiture. Ils ont filé, venu garer directement devant la boutique. Ils sont descendus, c'est comme si on est en guerre ou quelque chose. Bon, y a une personne qui nous a signalé police, tout le monde a essayé de fuir. Ils ont même attrapé certaines personnes, bon, tout le monde quand même a essayé de fuir. Tu fuis comme tu peux, parce que tu ne peux pas regarder ton prochain comment il va. Toi, c'est pour toi qui va t'inquiéter.
Le lendemain de notre tournage, en se rendant dans une épicerie près de l'Oliveraie, ce jeune homme a été arrêté et refoulé en Libye. Selon nos informations, il serait aux mains de milices qui demandent une rançon. Quel destin pour ces migrants ? Impossible de rentrer au pays, indésirable en Tunisie, interdit d'entrer en Europe, des milliers d'hommes, femmes et enfants vivent cette impasse au quotidien. Aïcha est originaire de Sierra Leone. Mère de 4 enfants, elle regrette amèrement d'être venue en Tunisie.
On est 2 enfants dans la famille. Ma mère est morte juste avant mon départ. Mon frère m'a donc proposé de venir ici le retrouver et j'ai décidé de venir.
Pour elle, comme pour tant d'autres, le rêve européen a vite viré au cauchemar.
Quand je suis arrivée ici, j'ai retrouvé mon frère qui a pris soin de moi. Un jour, alors qu'il partait marcher, il a été arrêté. Je suis allée au commissariat de police. Je leur ai dit que c'était la seule personne qui me restait dans ma famille. Je les ai implorés de le relâcher. Ils ont refusé. Ils ont pris mon frère et ils l'ont envoyé dans le désert avec quelques autres personnes. Comme ils avaient des téléphones, ils m'ont appelé. Je lui ai parlé. Et là, mon frère m'a dit... Je ne vais pas y arriver, j'y arrive pas. On n'a ni eau ni nourriture. On est au milieu du désert, il n'y a nulle part où aller. Je ne vais pas y arriver. Reste calme. Et ça a été la dernière fois que je l'ai eu au téléphone. J'ai tellement pleuré et prié ce jour-là. Quand je l'ai rappelé, les personnes qui étaient avec lui m'ont dit « Désolé, on a fait ce qu'on a pu. Ton frère est parti, il est parti. On l'a enterré dans le désert. » Comme un inconnu. Je peux plus parler, c'est tout.
Ici, tout sont des histoires de violences verbales ou physiques à raconter. Abou Bakr, le regard vide, installé devant sa bâche en plastique qui fait office de tente, se rappelle du jour où il a vu la mort de près. C'était un soir d'avril 2023.
On a été attaqué alors qu'on était dans la maison que l'on louait. Ce sont des citoyens tunisiens qui nous ont attaqués. Ils avaient des pierres, alors j'ai sauté de l'étage. J'ai couru pour me sauver, j'ai fini dans une mosquée où les gens priaient. Après la prière, ils sont venus vers moi et avaient de la peine pour moi, vu l'état de ma jambe. Ils ont appelé une ambulance. Ils m'ont sorti de la mosquée, et là, une patrouille de police est passée. Ils ont vu qu'il y avait un attroupement, alors ils ont demandé ce qu'il se passait. Ils leur ont expliqué qu'il y avait un Africain blessé. Au lieu de partir en ambulance, c'est la police qui m'a pris avec elle. Je me suis retrouvé dans un endroit où il y avait 4 bus stationnés et plein d'Africains. Des Noirs, quoi. Ici, en Tunisie, on nous appelle Africains, en fait. On m'a fait monter dans le bus. On a roulé toute la nuit. Je ne savais pas où on nous emmenait. Je pleurais qu'on vienne m'aider, qu'on m'emmène à l'hôpital. Mais ils ont refusé de le faire. À la place, j'ai été emmené dans le désert.
Débute alors, selon son récit, plusieurs semaines dans le désert, à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie. Comme plusieurs migrants rencontrés à Al-Amra ce jour-là, Abou Bakr a fait le choix de revenir malgré tout dans la région de Sfax. Il montre la radiographie qu'il a enfin pu faire de sa jambe blessée.
They gave me this paper. This my foot.
Ils m'ont donné ces papiers, ça c'est ma jambe là. Ils ont pu voir où était le problème. Le seul espoir que j'ai là, c'est d'entrer en Europe. À l'hôpital, ils m'ont dit que c'était trop tard pour eux, pour pouvoir faire quelque chose. L'os ne peut pas retourner à sa position initiale, alors j'espère pouvoir entrer en Europe pour pouvoir soigner ma jambe.
Dans ce bidonville en pleine campagne, la vie est rythmée par les tâches quotidiennes, cuisine, foot, prière. Mais surtout, surtout, le rêve de rallier l'Europe au plus vite.
Laissez-nous passer, laissez-nous passer, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, on n'a rien fait ici, on n'a pas venu pour faire du mal. On n'a pas venu pour faire du mal ici, on est venu seulement pour traverser.
Gagner l'Europe au risque de sa vie. Des milliers de ressortissants de pays d'Afrique de l'Ouest et centrale attendent leur tour ici en Tunisie, devenue bien malgré elle, terre de transit. L'an dernier, les gardes-côtes tunisiens ont intercepté 5 fois plus de migrants que l'année précédente. Face à un vieux continent qui se cadenasse, certains avaient fait le choix de rester en Tunisie. En plein Tunis, une association a fait le pari de l'insertion depuis 2 ans et demi.
Moi, je m'appelle Chloé Lepron, je suis française, je travaille dans l'association Ftarchi depuis 2 ans déjà. J'ai 25 ans et du coup, là, on est dans les locaux de l'association. On va assister à un cours de pâtisserie qu'on fait pour des femmes migrantes. C'est une formation de 2 mois. Et là, elles sont à peu près en milieu de formation. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elles font. Yosra, elles font quoi aujourd'hui, les filles? Du coup, Yosra, c'est notre prof de pâtisserie. Amiela, qui fait un petit reportage radio.
Ce jour-là, une quinzaine de femmes sont regroupées autour de Yousra, leur professeure tunisienne.
Juste, elle enregistre le bruit du fouet.
C'est le blanc en neige ferme. Maintenant, vous pouvez ajouter le sucre semoule en pelouille. Et au fur et à mesure, il faut mélanger.
Et Yousra, vous me donnez faim. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer là?
Donc, on est en train de faire les langues du chat pour préparer un tiramisu.
Eden, congolaise, 24 ans, en Tunisie depuis 1 an, suit les instructions avec attention. Elle compte bien mettre à profit cette formation.
D'abord, acquérir de l'expérience en Tunisie lors des stages et si je peux trouver un boulot. Et après, peut-être repartir au Congo parce que là-bas, il n'y a pas trop de pâtisseries. Et aussi, puisqu'il y a aussi des Marocains, des Tunisiens aussi au Congo, pourquoi pas faire cet ensemble-là de la pâtisserie française et tunisienne et congolaise.
Ouais. Pourquoi pas ouvrir une pâtisserie en fait
ouais, pour ouvrir une pâtisserie là où il y a ces cultures-là, tunisienne, européenne et congolaise.
Ces étudiantes en pâtisserie sentent bien qu'elles ne sont pas les bienvenues en Tunisie. Yousra, leur formatrice tunisienne, essaye d'apporter un peu de chaleur dans leur quotidien souvent difficile.
Vous avez plein de photos de vos stagiaires sur votre téléphone. Vous êtes fiers d'eux ?
Oui, bien sûr. Toujours, je vais faire les photos lorsque mes stagiaires travaillent.
Et qu'est-ce que ça vous apporte de travailler ici pour Ftar chez vous en tant que chef ?
Sincèrement, je suis très contente de travailler avec ces migrants parce qu'il y a une différence entre travailler avec eux et avec de jeunes Tunisiens. Ce n'est pas pareil. Les migrants ont plus l'envie de travailler. Ils veulent apprendre plus de choses, d'après ce que je vois. Ils sont bien plus motivés. Ils ne sont pas dans leur pays, donc ils veulent travailler. Ils veulent avancer pour pouvoir trouver un travail.
Se former, c'est bien.
On va pocher.
Mais le défi pour ces femmes en situation irrégulière, la plupart du temps, c'est justement ça, trouver du travail.
Alors nous, on travaille surtout avec des employeurs. En fait, ça leur tient à cœur d'employer des personnes migrantes. Il faut les toucher un peu sur cette corde-là. Donc c'est des gens qui sont souvent sensibles à cette cause et qu'on connaît personnellement. Voilà, et ça, comme ça, ça marche souvent assez bien.
Bravo, bravo.
Une insertion rendue de plus en plus délicate.
Ça va.
En février 2023, la présidence tunisienne rend public un communiqué dans lequel elle s'érige, je cite, « contre les hordes de migrants illégaux qui ont vocation, je cite toujours, à modifier la composition démographique du pays. » Des mots qui vont mettre le feu aux poudres en Tunisie. Des violences anti-migrants éclatent. Nombreux sont ceux qui perdent travail et logement.
Et donc en Tunisie, on a une année, l'année 2023 a été extrêmement éprouvante pour les communautés subsahariennes. Est-ce que vous, ça a changé quelque chose pour vous ici chez Ftar?
Nous, on ne communique plus sur Facebook sur nos activités, parce qu'à chaque fois qu'on le fait, on a des vagues, enfin on a des commentaires haineux, on reçoit des messages d'insultes, donc on ne peut plus communiquer là-dessus. Enfin, même notre formatrice, elle, on avait partagé des photos de la formatrice et quelqu'un avait trouvé sa page personnelle sur Facebook et l'avait traitée de traître à sa nation parce qu'elle donnait des cours de pâtisserie à des femmes noires, donc voilà, on évite d'exposer surtout des gens qui sont pas de l'équipe, quoi, et nos bénéficiaires et nos formateurs.
Vous dans votre cercle, vos amis, la famille, quand vous leur dites ce que vous faites, quelle est leur réaction? Ils ont la réaction typique. Ils me disent « fais attention à toi », etc. Mais j'essaye de changer leurs a priori. Ça m'arrive même d'inviter certaines des migrantes à la maison. Ma famille me dit « ça ne se fait pas, tu ne les connais pas ». Je les rassure, je leur dis que ce sont des gens bien, qu'il n'y a pas de problème. En fait, nous, les Tunisiens, on a tous des membres de notre famille à l'étranger. Eh bien, traitons ces migrants comme on aimerait qu'on traite les nôtres à l'étranger, c'est tout.
Ni plus ni moins.
Tunisie, le supplice des migrants subsahariens. Grand reportage d'Amira Souilem. Bonjour Amira.
Bonjour Patrick.
Vous le dites dans le reportage, impossible de rentrer au pays, indésirable en Tunisie, interdit d'entrer en Europe. La vie de ces migrants subsahariens, c'est une impasse. Et de fait, la situation a l'air de se tendre encore plus ces jours-ci.
Oui, absolument. Pas un jour ne se passe sans que la situation à Al-Amra et plus largement dans la région de Sfax ne fasse la une de l'actualité en Tunisie ces jours-ci. Comme je l'expliquais dans le reportage, la situation humanitaire est déplorable dans ces camps improvisés, dans des oliveraies tunisiennes. En fait, la situation s'enlise, on pourrait même dire qu'elle pourrit, d'autant qu'au bout de plusieurs mois à ne plus pouvoir disposer de leur terrain, eh bien certains propriétaires et riverains tunisiens commencent à être excédés par cette situation. Vous savez, Patrick, quand on va à l'Amra, on a vraiment cette impression de guerre des pauvres. C'est une espèce d'affrontement des pauvres contre plus pauvres qu'eux. Les pauvres, si je peux parler ainsi, c'est cette population tunisienne très fragilisée par la crise économique qui fait face à une communauté encore plus précaire qu'elle, celle des migrants subsahariens. Ce qui revient beaucoup dans la bouche des Tunisiens sur place, c'est « nous n'avons pas les moyens d'accueillir ces gens, nous sommes déjà à bout de souffle nous-mêmes ».
Et si cette situation se tend sur place, c'est aussi parce que cette question migratoire est au centre des préoccupations politiques majeures ces jours-ci.
Oui, tout à fait. On peut résumer cela en deux mots, européenne et présidentielle. Élection européenne en Union européenne en juin prochain et une présidentielle en Tunisie qui devrait se dérouler cet automne. De quoi raviver l'intérêt pour la question migratoire aussi bien du côté européen que tunisien. Alors ici en Tunisie, depuis plusieurs semaines, eh bien, c'est le défilé des ministres italiens. Si les ministres de l'enseignement supérieur ou de la culture ont promis des partenariats, eh bien, ceux de la défense, de l'intérieur et Giorgia Meloni elle-même, la présidente du Conseil italien, sont plutôt venus parler lutte renforcée contre l'immigration illégale. À quelques semaines du scrutin européen, il s'agit de montrer aux Italiens que le gouvernement agit sur le terrain pour réduire les flux de migrants qui arrivent sur le territoire italien. Et puis, côté tunisien, le pouvoir cherche aussi à montrer qu'il est en mesure d'assurer la sécurité de sa population à quelques mois de la présidentielle. D'ailleurs, des renforts sécuritaires ont été envoyés sur place la semaine dernière. Des campements ont été détruits, un immeuble vidé de ses habitants sous les applaudissements de riverains tunisiens. Et les autorités promettent, sans préciser exactement comment elles vont s'y prendre, de résorber la situation au plus vite.
Alors, traqués par la garde nationale ou la police tunisienne, ces migrants doivent aussi désormais se méfier d'une autre menace très récente, celle-là, celle des gangs de ravisseurs. Amira, de quoi s'agit-il exactement ?
Oui, vous avez entendu dans le reportage le témoignage du jeune Smaïl qui a été déporté en Libye au lendemain de notre tournage. Comme de très nombreux migrants subsahariens, Smaïl est tombé aux mains d'une milice locale qui l'a pris en otage et a réclamé une rançon de 500 euros. La nouveauté, c'est que ce phénomène très présent en Libye est arrivé en Tunisie et les rançons peuvent désormais atteindre plusieurs milliers d'euros. Depuis quelques mois, des groupes mafieux se sont constitués. Ils sont composés de Tunisiens et de subsahariens. Et le mode opératoire, à en croire le récit des rescapés, est souvent le même. Les migrants sont kidnappés, on appelle leur famille, parfois en pleine séance de torture, pour réclamer de l'argent. C'est un phénomène qui prolifère sous fond d'impunité, puisqu'illégaux en Tunisie et craignant la police plus que tout, rares sont les migrants qui osent en effet porter plainte.
Merci Amira Souilem pour ce grand reportage et votre témoignage. Le supplément au grand reportage se referme au générique Ludivine Amado, Eva Piedel et Victor Hull. Demain, nous irons à la rencontre des bisons dans les grandes plaines du Canada. Et avec Florence Mietto, nous serons au Soudan du Sud. On s'éloignera de Djouba pour être dans deux petites localités où bon nombre d'enfants se découvrent un mal ignoré ailleurs. Un jour qu'ils s'apprêtent à manger, votre enfant refuse et commence à hocher de la tête, et cela ira de mal en pis. Demain, l'histoire de ce mal, les remèdes réels ou supposés, et les croyances qu'il génère. On se retrouve dimanche, 9h10 temps universel.